Écho de ma commune, aujourd'hui à Châteaudun, nous retrouvons Henri Michel qui reçoit cette semaine Mireille Bienvenue, conservatrice du Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle.
Bonjour.
D'abord, pouvez-vous nous faire un petit historique déjà de votre cursus, de comment votre cheminement pour arriver jusqu'au musée?
Alors moi, mon cheminement est ce qui correspond souvent aux gens qui sont arrivés dans les musées il y a assez longtemps, puisque moi je travaille au musée de Châteaudun depuis plus de 30 ans. Moi je suis arrivée pour un remplacement. J'ai fait des études universitaires, mais qui étaient dans le domaine de la chimie, donc assez éloigné de ce qu'on peut imaginer dans un musée, mais je vous expliquerai après que c'est pas si éloigné que ça. Et donc, moi, j'ai gravi toutes les étapes et les grades dans le musée avec examen, concours professionnel, puisque nous sommes un musée municipal, donc nous faisons partie de la fonction publique territoriale. Et actuellement, donc, j'ai le grade d'assistante de conservation du patrimoine et je m'occupe du musée, c'est-à-dire que de tous les postes, aussi bien de l'animation, budget, finances, préparation d'exposition et...
Et depuis combien d'années, donc, vous êtes à ce poste?
Alors moi, je suis à ce poste depuis 5 ans. J'étais déjà l'assistante de la conservatrice préalablement. Oui. Alors la chimie, c'est pas si éloigné que ça. C'est vrai que ça paraît quelque chose, puisqu'en fait, dans un musée, on étudie les objets et surtout leur dégradation, puisque c'est surtout ça ce que l'on essaye d'éviter. Donc tout phénomène de dégradation généralement passe par des phénomènes de chimie, d'oxydation, de dégradation. Tous les procédés et les produits utilisés par les restaurateurs sont des produits chimiques. Et souvent, tous les restaurateurs sont des chimistes au départ. Donc je ne suis pas si éloignée que ça de ma formation initiale.
Et donc vous étiez vous-même assistante,
oui.
Et maintenant vous êtes assistée de combien de personnes?
Alors actuellement au musée, nous sommes 4 personnes à travailler. Donc il y a 2 personnes, deux collègues qui font essentiellement de la médiation, de l'accueil, c'est-à-dire qu'elles accueillent le public individuel, le public de groupe, donc l'une plutôt pour l'histoire naturelle, l'autre plutôt pour tout ce qui est collection égyptienne, art visuel, atelier avec les enfants. Et puis donc on a un homme qui travaille au musée, qui est agent de surveillance et qui participe également aux missions de saisie de l'inventaire et aux préparations d'expositions.
Oui, et donc un peu l'historique de ce musée, depuis combien d'années a-t-il vu le jour et quelle est son histoire au départ?
Donc son histoire au départ en fait commence en 1864. À cette époque, à Châteaudun, il n'y a pas de musée. Par contre, il y a déjà des travaux et des travaux qui sont faits essentiellement sur la voie de chemin de fer entre Paris et Tours, qui mettent à jour des sites archéologiques, essentiellement au niveau de Marboué, avec une villa gallo-romaine et une nécropole mérovingienne. Et le député de Châteaudun à cette époque s'inquiète beaucoup du fait que les objets partent dans différents musées et que les sites soient pillés. Donc il va créer une association qui existe toujours, qui s'appelle la Société Dunoise d'Archéologie, dont le but est de collecter ces pièces archéologiques pour éviter qu'elles partent dans d'autres musées de France et surtout qu'elles soient préservées localement. Donc au départ, le musée est essentiellement un musée d'histoire locale et d'archéologie. Et puis au fur et à mesure des années, la ville de Châteaudun va avoir aussi un musée conjointement. Les deux sont à l'hôtel de ville jusqu'en 1870. Donc la ville, c'est plutôt des collections de peintures avec des dépôts d'État ou des objets archéologiques. On va avoir comme ça des collections qui vont venir se greffer, soit municipales, soit auprès de l'association, tout au long des années. Donc la collection des oiseaux avec la collection du marquis de Tarragon, donc là c'est un legs fait à la ville de Châteaudun en 1897. La collection Amelino, donc l'archéologie égyptienne qui arrive au début du siècle. La collection Valofroy un petit peu plus tardivement dans les années 1970 et depuis donc d'autres legs d'art oriental et récemment un leg plutôt peinture et sculpture. Donc on a toutes sortes de domaines comme ça qui font un ensemble assez intéressant puisque d'une salle à l'autre on passe d'un univers à l'autre de façon on voyage en fait dans le même bâtiment. On voyage dans le temps et on voyage dans l'espace.
Oui, et puisque nous allons surtout parler tout à l'heure, donc, de l'exposition temporaire actuelle, les animaux dans l'Égypte ancienne. Donc, à part cela, dans l'exposition permanente, on a une salle d'égyptologie. Racontez-nous un peu cette histoire. Pourquoi est-elle arrivée à Châteaudun ?
Alors, elle est arrivée à Châteaudun parce qu'en fait, le fouilleur qui s'appelle Émile Amelineau est venu vivre à Châteaudun dans la dernière partie de sa vie. À l'origine, c'est quelqu'un qui est originaire de Bretagne, qui au départ se destine à la prêtrise. Il va étudier les langues anciennes et essentiellement la langue copte, puisque son domaine d'étude, c'est cette période-là. Donc, les coptes, c'est un peuple qui habite en Égypte, un peuple chrétien. Et il va souhaiter faire des fouilles en Égypte. Donc, on va lui proposer le site d'Abydos, puisqu'à Abydos, il y a un temple copte. Donc, il va faire des fouilles avec des fonds privés, c'est-à-dire que c'est pas l'État égyptien l'autorise à fouiller, mais ce n'est pas avec des fonds publics de l'État français. Donc, il va fouiller pendant 3 hivers successifs, de 1895 à 1899. Et au retour de France, en retour en France, il va vendre une partie de sa collection aux enchères à Drouot, mais garder une partie pour lui. Et donc, à la fin de sa vie, il habite la Hurlanderie, qui est une maison de Châteaudun dans la rue qui va en direction du camping. Et la Société Dunoise existant déjà, le musée possédait déjà une momie. Et donc, il a souhaité donner à la Société Dunoise une partie de sa collection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a énormément d'informations précises sur le lieu de fouille, pratiquement le lieu de découverte de chaque objet. Puisqu'en fait, sur Abydos, il y a eu différentes tombes royales qui ont pu être trouvées. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces objets datent de l'époque tinite. Et l'époque tinite, c'est la période d'avant les grandes pyramides, une période où en Égypte, on momifie peu, puisqu'on ne momifie et on n'enterre que le roi et ses proches. Donc, il n'y a pas une quantité de momies comme il peut y avoir plus tardivement à l'époque romaine.
Vraiment, tout ça est bien captivant et nous allons faire une petite pause musicale. Suivons notre émission concernant le musée et en demandant à notre invité de nous parler en quelques mots de l'activité actuelle et en particulier de la fameuse nuit des musées qui s'est passée tout récemment.
Oui, donc le musée participe à différentes manifestations nationales. Donc cette année, nous avons, comme pour les années antérieures, participé à la nuit des musées. Donc pour Châteaudun, le musée est ouvert de 19h30 à 23h. Et depuis plusieurs années, on participe également à une opération qui s'appelle La Classe L'œuvre. Donc c'est une opération qui a eu lieu déjà depuis 2013, qui est organisée au niveau national dans différents musées. C'est organisé conjointement par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. Et le but est de faire découvrir à des élèves, dans le cadre scolaire, des œuvres du musée. Ils viennent une séance au minimum découvrir des œuvres plus spécialement, réaliser des croquis. Ensuite, pendant l'année scolaire, ils réalisent des œuvres en classe qu'ils viennent présenter au public lors de cette nuit. Donc cette année, c'est le Collège Sainte-Cécile de Châteaudun qui a participé à ce projet avec 3 classes de 6e. Donc ils sont venus dessiner, faire des croquis de têtes d'oiseaux au musée au mois de janvier. Essentiellement des huppes, tout le travail autour des becs. Donc ma collègue on les a accueillis, on leur a expliqué en fait les liens entre l'utilisation que l'animal fait de son bec pour manger, à quoi servent les éléments de parade de la tête. Et à partir de cela, ils ont créé des masques zoomorphes qui sont venus présenter au public, qui sont venus défiler certains avec leurs masques, en faisant un défilé, en imitant le mouvement, le déplacement des oiseaux. Donc au total, il y a 75 enfants qui ont participé et donc qui sont venus avec leur famille découvrir pendant la nuit des musées leurs masques. Et on a également proposé donc la gratuité tout au long de cette soirée. Donc au total, nous avons accueilli 248 visiteurs, et ce qui est encore un petit peu mieux que l'année précédente puisqu'on était à 232. Donc c'est l'occasion pour le public de découvrir autrement le musée d'une autre facette. Hein. Et la nuit aussi, les lumières même sont un petit peu différentes, c'est assez intéressant.
Eh bien, maintenant, on va faire une brève petite seconde pause musicale avec notre technicien Jean-Marie, avant d'aborder la troisième partie, c'est-à-dire l'exposition actuelle. Nous reprenons notre audition au musée de Châteaudun. Nous allons demander à notre invité de nous dire comment se passe la fréquentation du musée. On espère toujours que notre sous-préfecture dunoise attire de plus en plus les touristes car elle a beaucoup de charme.
Oui, donc au musée, la fréquentation est relativement stable. On accueille environ 9000 visiteurs par an. Donc c'est vrai qu'elle se découpe de différentes façons. On a les scolaires effectivement qui viennent, mais on a également du public qui vient de façon assez différente en fonction des périodes. Hein. Pendant les périodes d'hiver, surtout les petites vacances, on a surtout des grands-parents avec leurs petits-enfants qui souhaitent venir découvrir en famille, en les occupant dans le domaine culturel, les expositions. Pendant l'été, c'est plus effectivement des familles et des touristes. En cette saison-là, un petit peu entre les deux, on a aussi donc des jeunes retraités, hein, essentiellement des gens qui préparent des voyages de groupe. Là, c'était le cas tout à l'heure, on a accueilli quelqu'un qui prépare un groupe pour septembre, puisqu'on réalise également des visites guidées pour les groupes à la demande.
Eh bien, Venons-en au fait maintenant de la grande exposition actuelle qui est intitulée « Les animaux dans l'Égypte ancienne » et que Henri, qui vous parle, vient de visiter avec Jean-Marie, et nous avons été captivés. En plus, nous avons bénéficié d'une visite par votre assistante, Madame Elisabeth Lefrançois, et nous avons donc découvert donc le parallélisme entre l'Égypte et les animaux, et maintenant on comprend mieux pourquoi il y a ce parallélisme compte tenu de tout ce que nous avons vu. Et tout d'abord, on va vous demander, Mireille, quelle est donc cette idée d'avoir choisi cette exposition.
Alors, cette exposition est intéressante parce qu'elle nous permet de faire le lien entre deux grosses thématiques du musée de Châteaudun, qui sont la collection égyptienne et la collection d'histoire naturelle. Donc, on aime bien effectivement mettre en lien des collections du musée. Et puis en plus, ça permettait d'une part de pouvoir accueillir du public, et surtout l'Égypte fascine absolument tous les âges. Et c'est un sujet qui est assez fédérateur. Et en plus, c'était un thème donc qui a été cette exposition. Enfin, les panneaux ont été présentés au Muséum de Bourges, mais la présentation, la muséographie des objets présentés appartiennent au musée de Châteaudun, sauf un spécimen qui est un chacal que nous avons emprunté au Muséum d'Orléans. Donc l'idée, c'était aussi de présenter des animaux qui habituellement sont en réserve pour les animaux. Cette exposition, en fait, a deux volets. Donc d'une part, elle présente les animaux qui étaient présents dans l'Égypte antique, parce que l'Égypte antique donc, débute il y a près de 5000 ans. Et il y a 5000 ans, en tout cas en hémisphère nord, le climat était légèrement différent du climat actuel. Le climat était plus chaud et plus humide. De ce fait, aussi bien au niveau de la France, mais c'est assez frappant au niveau de l'Égypte et des zones désertiques comme le Sahara également, les zones humides étaient beaucoup plus larges. Donc il y avait des animaux qui étaient présents à cette époque-là en Égypte qui sont absents aujourd'hui. D'autant plus que l'Égypte, avec le barrage d'Assouan, a modifié tout ce qui était cru du Nil et déplacement des animaux. Donc il y a des animaux qui n'existent plus. C'est le cas par exemple pour l'hippopotame qui n'est plus présent dans le Nil. L'ibis sacré est en très très petite quantité maintenant, alors que c'était des animaux qui étaient assez fréquents. Donc ça, c'est le premier volet. Hein, c'est le volet, effectivement, découvrir une faune qui est assez différente. Une faune qui existe encore, mais une faune qui n'existe plus. Et l'autre volet, c'était aussi montrer que les Égyptiens ont été très attentifs à leur faune et à leur flore également, et qu'ils ont absolument étudié les animaux en leur définissant des qualités et des défauts. Et à partir de ces qualités et ces défauts, ils les ont associés à toutes leurs croyances, leurs divinités, et ils ont fait des parallélismes entre leurs dieux et les animaux. Alors avec des ambivalences, hein, c'est le cas pour le crocodile ou l'hippopotame, c'est-à-dire à la fois c'est un animal bon et à la fois un animal mauvais. Le crocodile, par exemple, à Crocodilopolis, c'est un animal qui est véné, il y a un crocodile qui a des bijoux, des colliers, qui représente le dieu Sobek. Et en même temps, le crocodile est une espèce qui va être chassée parce qu'elle attaque malheureusement le pêcheur ou les gens en bord de berge. Et ils vont en faire des momies de ces animaux qui sont proposés à la vente pour se faire pardonner de mauvaises actions. Donc c'est un petit peu, voilà, l'animal à la fois est protégé dans certains cas, et de l'autre cas, c'est quand même une espèce qui est chassée. C'est la même chose pour l'hippopotame. L'hippopotame, c'est un animal qui paraît rond, assez jovial, mais c'est un animal qui peut être agressif lorsqu'il sort de son plan d'eau pour aller se nourrir, surtout en début de nuit. Et ses dents sont des véritables pieux. Hein. Les canines inférieures peuvent mesurer 30 cm de long. Et lorsqu'il mord, même si c'est pas pour manger l'homme, parce que c'est pas un carnivore, il peut tuer. Donc les hippopotames étaient chassés. La preuve, on a des objets présentés qui sont réalisés en ivoire d'hippopotame et pas en ivoire d'éléphant. Hein. Une étude a été faite en regardant au microscope, on peut définir, ça n'a pas la même fabrication, constitution. Et à l'inverse, l'hippopotame, au niveau des dieux, hein, il y a une femelle hippopotame, enfin il y a un dieu Touéris qui représente une femelle hippopotame très ronde qui va représenter la maternité, donc quelque chose plutôt de positif. Alors que l'animal était considéré un petit peu comme nuisible. À tel point que dans le Nil actuellement, en tout cas en amont du barrage d'Assouan, il n'en existe plus.
Oui, au cours de la visite, effectivement, Elisabeth nous a parlé donc de ces dents d'hippopotame, l'ivoire qui restait, des dents creuses. On mettait des onguents à base d'huile dans ces fameux récipients. Elle nous expliquait que ces onguents à base d'huile aussi servaient à protéger la peau contre le soleil qui était sûrement déjà très important à l'époque et qui devait avoir quelques autres vertus, même que les momies aussi, les bandelettes des momies peut-être étaient-elles enduites de ces onguents ou...
Alors, effectivement, les Égyptiens avaient déjà mis en application énormément de choses au niveau médical, au niveau santé, au niveau esthétique, au niveau du corps. Et ils avaient effectivement toutes sortes de produits qui étaient conservés dans des petits flacons. C'est vrai que nous, les petits flacons que nous possédons sont des petits flacons provenant d'Abydos, donc essentiellement destinés aux pharaons et à ses proches. Donc, c'est des matières nobles dans lesquelles étaient conservés ces produits. Mais on a des résidus, y compris des résidus de colle, qui sont sur certains... sur un petit bol, un petit flacon à collerette. Et effectivement, il y avait, alors le col, on a différentes utilisations, effectivement, peut-être pour se protéger du soleil, pour avoir aussi éviter les insectes au niveau des yeux. Enfin, il y a différentes utilisations possibles. Mais il y avait effectivement toute une panoplie pour les humains et bien évidemment également des produits pour la momification, puisqu'il y avait différentes étapes et différents produits utilisés.
Ce qui nous a frappé en particulier, justement, ce parallélisme entre les animaux et cette culture égyptienne, c'est que les dessins, les fresques de cette époque, on avait un corps humain comme nous avons et une tête d'animal. Ça vraiment, on comprend bien maintenant pourquoi en plus ce parallélisme et en plus ils avaient vraiment leur code de représentation artistique, c'est-à-dire que La tête était toujours de profil, alors que le corps était de face. Et puis les membres inférieurs étaient également jusqu'aux pieds de profil dans la direction où regardait la tête.
Oui, ça c'était quelque chose. L'art égyptien est très codifié. C'est-à-dire qu'on peut pas, autant chez maintenant un artiste va s'exprimer librement et va représenter le corps humain comme il le souhaite, autant en Égypte antique c'était codifié. La tête devait représenter tant de pourcents du corps. Effectivement, on représente toujours les épaules. On voit les deux épaules, on voit les deux bras, on voit toujours les deux mains, on voit les deux jambes. Par contre, effectivement, le bassin est de profil et la tête est de profil. Et ça, c'est quelque chose d'automatique. On ne va avoir des représentations de face du visage qu'à l'époque copte, quand ils vont sortir de toute cette codification qui est impérative. Hein. On n'a pas du tout d'essai, même sur des petits essais de dessin, sur des petits fragments, c'est vraiment toujours de profil, toujours représenté comme ça. Alors au niveau des dieux, c'est toujours pareil. On a des dieux, les dieux sont toujours représentés avec un corps humain et une tête animale. On a quelques dieux à tête humaine, c'est le cas pour Osiris. Et il y a toute une pléiade de dieux comme ça, assez importante. Hein. Il y avait des villes qui par exemple à Memphis, c'était le taureau Apis qui était vénéré. Donc il y avait réellement physiquement un taureau qui était dans la ville, qui avait des taches précises au niveau du corps. Lorsque ce taureau mourait, les prêtres allaient dans l'Égypte partout retrouver un tout petit veau qui avait exactement les mêmes couleurs pour le remplacer. Et ce taureau, à sa mort, était momifié. Il y avait des sarcophages pour accueillir ces animaux qui faisaient quelques centaines de kilos.
Oui, vraiment, on a fait toute une visite des animaux, les animaux aquatiques, on en a parlé, donc les taureaux, même il y avait les renards ou le chacal et le serpent aussi, on a été impressionné. À la fin, c'est un serpent d'ailleurs qui a un moulage de serpent qui a été prêté par le musée de Bourges.
Oui,
je
c'est
crois,
ça, c'est un moulage de cobra. Oui.
Oui, vous avez travaillé en association avec ce musée pour l'exposition.
Voilà, c'est ça. Ce sont eux qui nous ont prêté les panneaux et nous ont prêté deux moulages de cobra. Puisque nous, lorsqu'ils ont présenté leurs panneaux, le musée de Châteaudun avait prêté les objets d'art. Avait prêté des crocodiles momifiés, nous avions prêté des amulettes, de scarabées. La plupart des objets présentés avaient été prêtés lors de cette exposition.
Et on a été impressionnés à la fin en redescendant la fameuse salle d'égyptologie qui est permanente, elle, mais qui n'est. Et de voir en particulier, il y a au centre de cette. de cette salle un sarcophage que l'on voit verticalement, qui est vraiment, du moins l'enveloppe est bien conservée, mais on nous a expliqué que ça, la chimie, vous allez nous dire pourquoi vous avez pris la décision qu'il fallait, je ne sais pas à quelle époque, vous avez quand même vidé l'intérieur.
Oui, alors là, dans cette momie, en fait, au départ, c'est réellement une momie. Hein, c'est-à-dire que c'est un corps humain conservé, décoré avec un cartonnage qui est autour. Elle a été achetée par Amédée Lefebvre Pontalis, qui était maire de Saint-Christophe, qui était propriétaire du château d'Aulnay et qui était député des environs et qui, en même temps, avait une société commerciale en Égypte. Donc, il l'avait achetée au musée du Caire pour le musée de Châteaudun. Ça se faisait à la fin du 19e siècle. Le musée du Caire vendant des momies qui n'étaient pas qui n'avaient peu de précision sur leur nom, qui n'étaient pas une titulature royale, pour permettre de faire fonctionner le musée et de pouvoir continuer des fouilles. Donc cette momie a donc traversé la Méditerranée par bateau, est venue à Châteaudun en chemin de fer. On ne sait pas à quel moment elle a vraisemblablement été replacée dans un environnement humide. C'est-à-dire qu'une momie, théoriquement, c'est un corps humain complètement conservé, complètement desséché, déshydraté et enveloppé avec de bandelettes. Donc, théoriquement, la totalité du corps doit être conservée. Or là, dans le cas de la momie, elle était à l'origine présentée dans une vitrine table au centre de la salle et l'épaisseur était beaucoup trop faible pour pouvoir contenir une momie en bon état. Donc, lorsqu'on a voulu, il y a près de 20 ans, restaurer le cartonnage, il a fallu faire une radiographie de la momie dans la salle pour deviner un petit peu avant de pouvoir soulever le cartonnage quel était l'état de la momie à l'intérieur. Et là, ça a été un petit peu la stupeur. Donc l'hôpital de Châteaudun est venu avec une radiographie, un système de radiographie qui se déplaçait. Et là, en fait, c'était plus vraiment une momie dans son intégralité, c'est-à-dire que les os s'étaient déplacés. Donc là, il n'y avait plus la peau qui tenait en fait le corps humain. Et les restauratrices ont fait le choix de proposer de conserver donc les restes humains en bac, puisque là ça ne se tenait plus en fait, hein, c'était plus près du squelette que de la réelle momie, et de la conserver pour éviter qu'il y ait éventuellement une acidité qui puisse abîmer le cartonnage. Et depuis, donc, comme le cartonnage a pu être présenté verticalement, ça permet une meilleure lisibilité. Il a pu être restauré, c'est-à-dire qu'il y a eu des consolidations avec des résines incolores pour conserver, consolider l'ensemble. Et également, les manques ont été comblés par un tissu qu'on aperçoit légèrement, et il y a une structure métallique, en fait, qui la fixe et qui la maintient dans cette position. Et sur ce cartonnage, on a les scènes et les rites religieux traditionnellement représentés sur le livre des morts, sur les stèles.
Eh bien, pour conclure, on peut dire qu'on est vraiment impressionné comme quoi des gens natifs du terreau du Noir sont allés jusqu'en Égypte et ont ramené les richesses de cette civilisation, comme quoi les échanges de l'humanité dans ce qu'ils ont de positif, c'est on est heureux de les découvrir au musée et puis il faut qu'on les continue. Et en vous remerciant beaucoup, Madame la conservatrice en chef du Muséum de Châteaudun, d'être venue à nouveau, parce que ce n'est pas la première fois, pour nous entretenir de toutes les richesses de notre musée local.
Merci de m'avoir accueillie.